La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N. Hélène Maquet.
Une page tumultueuse de l'histoire de la Belgique s'est tournée la nuit dernière.
Sa Majesté le roi Léopold III vient de mourir.
Léopold III a profondément marqué l'histoire de la Belgique.
Le roi est mort, vive le roi. Derrière la formule habituelle se cache un symbole puissant, la monarchie. Ne meurt jamais.
Dans toutes les monarchies, la mort d'un roi est un moment de célébration, de commémoration, où l'on enterre aussi une époque, une tranche de vie d'un pays.
En 1983, le roi est mort, mais pas grand monde n'a crié « Vive le roi ». Léopold III avait abdiqué 32 ans plus tôt au profit de son fils Baudouin.
Contrairement à la coutume, les médias n'ont pas enterré son règne de 34 à 51. Ils ont fait l'inverse, ils l'ont déterré.
Car en Belgique, le règne tragique et maudit de Léopold III est resté longtemps un sujet trop sensible. La réserve était de mise jusqu'au 26 septembre 1983. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue.
On se replonge aujourd'hui donc dans un événement toujours très particulier dans l'histoire d'une monarchie, la mort d'un roi, celle donc du roi Léopold III.
Léopold III qui est mort à 81 ans à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles le 25 septembre 1983 pour la RTBF. C'est évidemment un événement à traiter, mais très vite se pose la question: comment traiter d'un personnage historique aussi controversé? La controverse, c'est la question royale à propos du rôle du roi pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, et cette polémique a, à ce point, divisé la Belgique d'après-guerre que certains observateurs évoquent alors un climat insurrectionnel, presque une guerre civile. Le roi abdique donc en faveur de son fils en 1951, le roi Baudouin. À partir de ce moment-là, les principaux responsables politiques, médiatiques et évidemment le roi lui-même s'applique un devoir de réserve et les archives sont très parlantes jusqu'en 1983. On fait très peu mention de Léopold III et de son règne, en tout cas à la RTBF.
Alors les historiens, eux, en revanche, ont travaillé à partir des années 70. Surtout, la mort du roi va donc être l'occasion d'évoquer des connaissances nouvelles que l'on a de cette période. La mort du roi va signer le début d'une vague d'intérêt pour la Deuxième Guerre mondiale dans les médias.
Pour en parler avec nous, Chantal Questelot. Bonjour.
Bonjour.
Chantal Questelot, vous êtes responsable de l'histoire publique au Centre Guerre et Société des Archives de l'État. Vous vous intéressez donc évidemment à la Deuxième Guerre mondiale et à la mémoire, la transmission de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, dont l'histoire est transmise aussi, notamment dans les grands médias. On peut noter que vous avez collaboré avec la RTBF, notamment sur le documentaire « Les enfants de la collaboration ». Est-ce que vous vous souvenez d'abord, première question toute simple, de ce jour de la mort du roi Léopold III, donc le 26 septembre 1983?
Je m'en souviens effectivement de cette mort. J'étais à l'université, en première licence et je faisais un mémoire où j'allais entamer un mémoire sur la Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence sur l'attitude du Parti socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui.
Et donc effectivement, cette image m'a marquée, mais j'avoue qu'avant ça, je n'en savais pas grand-chose. J'avais juste entreaperçu l'ouvrage de Christian Mesnil, La question royale, mais sinon c'était un peu un non-sujet pour moi à cette époque-là.
Et vous n'éprouvez pas de sentiment particulier ?
Je n'éprouve pas de sentiment particulier, ni tristesse, ni voilà. Donc c'est un événement, c'est un vieil homme qui meurt, c'est une partie de notre histoire, voilà.
Alors, on va voir qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de la mort de ce vieil homme à l'époque du roi Léopold III. On se replonge tout de suite dans nos archives en 1983.
C'est un jour de septembre idéal à Bruxelles. De la chaleur venue du sud de l'Europe remonte vers le nord. Le 26 septembre 1983, l'été déjà oublié remplit à nouveau les rues de la capitale. Les pavés de la place des Palais se gorgent de chaleur. Au petit matin, un employé de la maison royale grimpe au sommet du dôme central du palais. Devant lui, la ville s'étire mollement. Le parc royal respire le matin. L'homme s'approche du mât central qui, dans une symétrie parfaite, est aligné sur l'entrée de la chambre des représentants. Il descend lentement le drapeau fané par l'absence de brise. Il l'arrête à mi-hauteur du mât. dans une insouciance estivale, le drapeau royal est en berne. Et tous les autres drapeaux officiels vont suivre. Les lettres JT apparaissent blanches sur un fond bleu roi. Les timbales annoncent le grand journal du soir.
Une page tumultueuse de l'histoire de la Belgique s'est tournée la nuit dernière. Le roi Léopold III, quatrième souverain de la Belgique, père du roi, est mort d'un accident cardiaque dans sa 83e année.
Une page tumultueuse de l'histoire s'est tournée. Jean-Jacques Gespers, le présentateur, choisit scrupuleusement ses mots. Léopold III, le roi dont on ne prononçait plus le nom, ou presque, le roi qui a divisé la Belgique, le roi qui a plongé le pays dans sa crise la plus noire, la plus existentielle, jusqu'au bord, diront même certains, de la guerre civile, ce roi-là est mort. Et il a droit à un JT spécial où chaque mot est scrupuleusement pesé.
Bonsoir à tous. Depuis le 16 juillet 1951, le roi Léopold III n'avait plus de pouvoir constitutionnel. Il avait cédé à son fils. C'est donc un simple citoyen qui vient de mourir. Mais on peut dire que ce n'est pas un citoyen ordinaire. Avant son abdication, pendant son règne de 17 ans, Léopold III a profondément marqué l'histoire de la Belgique, surtout par les choix difficiles qu'il a dû faire en 1940, en 1945 et en 1950. C'est à la clinique universitaire Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert que le roi Léopold III est mort. Il a succombé à des complications après une opération coronarienne. Dès ce matin, les drapeaux étaient en berne sur tous les édifices publics de la capitale. La cour observera un deuil jusqu'au 9 octobre et les drapeaux resteront en berne jusqu'au jour des funérailles nationales, c'est-à-dire samedi prochain. Depuis qu'il avait quitté le pouvoir, le roi Léopold III résidait au château d'Argenteuil à Ohain. Le plus grand calme régnait ce matin à Argenteuil, frappé par le deuil.
Du côté du gouvernement, le Premier ministre Wilfried Martens est absent. C'est donc le Premier ministre faisant fonction, le libéral Jean Gol, qui va s'exprimer au nom du gouvernement. Lui aussi, avec des mots très rigoureusement choisis.
Sa Majesté le roi Léopold III vient de mourir. Élevé par son père, le roi Albert, dans les principes de dévouement au pays qui ont caractérisé tous nos souverains, il a assumé la fonction royale en 1934 dans des circonstances tragiques. Son règne commençait à un moment où pesait encore sur nous la crise économique et où s'accumulaient les signes annonciateurs de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque la Belgique fut entraînée dans la guerre, notre armée, sous la conduite du roi, a combattu jusqu'à l'extrême limite de ses forces. On connaît le douloureux conflit de devoirs qui à ce moment s'est élevé entre le souverain et ses ministres. Ce dissentiment procédait de part et d'autre, de considérations très élevées.
Dissentiment, douloureux conflit de devoir. La voix nasillarde de Jean Gol choisit des euphémismes et évite soigneusement les mots qui pourraient rouvrir les plaies de la guerre. De nombreux survivants de la période ne pardonnent toujours pas à Léopold III d'avoir refusé de suivre le gouvernement à Londres, d'avoir capitulé sans considération pour les Alliés, d'avoir rencontré Hitler pour négocier et de s'être marié alors que beaucoup de Belges souffraient. Des choix qui ont déchiré la Belgique d'après-guerre et qui ont poussé Léopold III à l'abdication.
Au-delà des vicissitudes de l'histoire, il retiendra la haute conception de ses fonctions et l'abnégation dont Sa Majesté Léopold III a donné l'exemple au long d'une vie marquée par les épreuves. Le gouvernement s'incline devant sa mémoire.
Ellipse et euphémisme. Des oreilles actuelles ont peine à entendre le profond malaise qui suinte de chaque mot de Jean Gol. Pour le public de l'année 83, la question royale s'est terminée il y a 32 ans. Le traumatisme suscité par l'attitude du roi pendant la guerre, est donc toujours présent. Mais bien sûr, les plus jeunes ne s'en souviennent pas. Alors, le JT du service public va prendre le temps pour expliquer le temps long, le temps de la vie de Léopold III qui a traversé le siècle.
1901. Pour inaugurer ce 20e siècle qui sera celui de la technique, un événement signé Marconi. Le premier message par télégraphie sans fil traverse l'Atlantique.
Le rappel commence en 1901 avec le télégraphe. La douceur de la clarinette annonce la naissance du fils d'Albert Ier et de la reine Élisabeth.
Le 3 novembre de cette année 1901, leur naît un héritier que l'on baptise Léopold, Philippe, Charles, Albert, Meinrad, Hubertus, Marie, Miguel. Dès ses premières années, le petit prince reçoit cette éducation soignée dont son père se plaint volontiers d'avoir été lui-même privé. Et l'on affirme que si son frère Charles et sa sœur Marie-Josée, nés en 1903 et en 1906, sont souvent espiègles et turbulents, il témoigne, lui, d'un caractère calme et studieux.
La clarinette s'arrête brusquement. La guerre frappe en 1914. Léopold n'a que 12 ans. Et comme beaucoup de Belges, l'événement va le transformer.
Survient alors le pire événement qui puisse marquer la vie d'un enfant, quel qu'il soit. Le 4 août 1914, éclate la guerre. Léopold a 12 ans. Son père, qui a succédé en 1909 à Léopold II, fait conduire ses enfants en Grande-Bretagne. Pour ce qui les concerne, les souverains ont pris la décision de demeurer sur cet étroit territoire de Flandre que le roi, chef de l'armée, a su préserver de l'invasion. Albert Ier ne transige pas, en effet, avec l'idée qu'il se fait des devoirs de la dynastie. Ainsi, le 5 avril 1915, il rappelle auprès de lui son fils aîné pour le présenter à ses troupes en tenue de fantassin. Et ce n'est pas un simple geste de convenance. Les historiens sont unanimes à considérer que, devenu roi, Léopold demeurera profondément marqué par l'attitude de son père, soucieux d'assumer au pied de la lettre les responsabilités militaires suprêmes que lui attribue l'article 68 de la Constitution, décidé à commander son armée et à la commander seule, sans la moindre concession, ni aux états-majors anglais et français, ni même à son propre gouvernement.
Le roi Léopold III est mort et le JT se transforme en cours d'histoire. Il faut raconter aux Belges le règne maudit de Léopold III. Le décès de son père adulé, le décès de sa femme adorée, puis vient pour la deuxième fois dans sa vie le bruit sourd de la guerre. Les années 30, les hurlements de De Grelle et ceux des Stuka. Léopold III se retrouve dans une situation similaire à sa figure tutélaire, son père, le roi Albert Ier. Comme son père, il tient par-dessus tout à diriger lui-même l'armée, mais à la différence de 14-18, où l'armée belge avait réussi à sauvegarder une petite portion de territoire national, la Belgique s'effondre complètement. Le 25 mai 1940, au petit matin, au château de Winnendal, en Flandre occidentale, c'est la rupture. Le JT diffuse un témoignage précieux, celui d'un des quatre ministres présents ce jour-là, le socialiste Paul-Henri Spaak.
Le 25, très tôt dans le matin, vers 4-5 heures du matin, le soleil venait seulement de se lever, nous sommes arrivés au château de Winnendal et nous avons eu alors avec le roi notre dernière conversation politique où tous les arguments qui avaient été échangés depuis une dizaine de jours ont été repris. Mais cette fois, nous avons trouvé le roi tout à fait ferme, nous disant non, je ne peux pas quitter l'armée, je dois rester avec mes soldats, je dois rester en Belgique. Et nous, au contraire, nous disions, nous sommes prêts à rester avec vous jusqu'à ce que la bataille soit terminée, mais prenez vos dispositions alors pour passer en Angleterre, parce que nous croyons que la guerre doit continuer à côté des Français et des Anglais. La guerre n'est pas nécessairement perdue par cette défaite en Belgique. Et c'est là-dessus que nous n'avons pas pu nous mettre d'accord et qu'alors nous avons quitté le roi.
Cette interview de Paul-Henri Spaak date de 1968. Elle est signée Henri-François Vanhal dans son émission Télémémoire. Une des rares émissions où la RTB évoque cette période. À part ça, c'est le silence ou presque sur les ondes. En 1971, sort un livre qui va bouleverser les connaissances de ce moment clé de l'histoire de Belgique. Il s'intitule « L'an 40 ». C'est un succès de librairie, plusieurs fois réédité. Il apporte un regard neuf et critique sur cette année charnière et sur le rôle du roi Léopold III. Il est signé José Gotovitch, historien à l'ULB, et Jules-Gérard Libois, directeur du Centre de recherche sociopolitique, le CRISP. Leur credo, ne pas se lancer dans une histoire tribunale, le 26 septembre 1983, le jour de la mort de Léopold III, Jules-Gérard Libouin est l'invité du journal télévisé.
Ce qu'évoque Paul-Henri Spaak est évidemment un moment dramatique. Queen Anne Dale, les témoignages de Léopold III, ceux du gouvernement sont tous émouvants, dirais-je. Mais le 25-26, le problème n'est plus un problème militaire. On sait qu'on va capituler. Enfin, on le peut le supposer et personne n'est réellement hostile à la capitulation. Le seul problème, c'est le roi est le chef effectif de l'armée, mais il est aussi le chef de l'État. C'est probablement ce qui explique la rupture. Le gouvernement, il faut bien dire, en juin-juillet, n'a pas été si brillant qu'on a eu l'air de le dire maintenant, quand il parle « nous avons conseillé au roi », comme s'il avait conseillé la sagesse en juin-juillet. Lui-même était prêt à participer avec, comme les Français de Pétain, un armistice avec les Allemands. Après ça, il y a eu le rattrapage à Londres, heureusement d'ailleurs.
L'histoire que nous raconte Jules-Gérard Libouin au JT de la RTBF n'est ni noire ni blanche. Elle est nuancée et circonstanciée.
Léopold III envoie un parlementaire s'enquérir des conditions d'une suspension d'armes.
L'émission continue. Après le drame de Queen Anne Dale, le roi assume, il ordonne à l'armée l'arrêt des combats, sans concertation avec les alliés anglais et français. Très vite, le mot est lâché, trahison.
Cet armistice va susciter des réactions qui ne peuvent s'expliquer que par la totale confusion des esprits causée par cette gigantesque débâcle. Le Premier ministre français, Paul Reynaud, lance le 28 mai, sur les ondes de sa radio nationale, des accusations infamantes, accusant explicitement le roi Léopold III de trahison. Quelques indulgents, et ils sont rares, invoquent l'invraisemblable atmosphère du moment.
À cette rupture initiale s'ajoute une rencontre avec Hitler, à Berchtesgaden, et un second mariage en 1941, alors que la plupart des prisonniers de guerre wallons souffrent encore dans les camps. À la libération, Léopold III n'est plus le bienvenu dans son propre pays. La gauche, surtout, s'y oppose. La question royale commence, elle durera 6 ans. 6 ans d'exil et de polémique entre léopoldistes et anti-léopoldistes, ponctuée par un référendum opposant une Flandre largement favorable à Léopold III à une Wallonie plutôt hostile. Un pays fracturé comme jamais, finalement, un gouvernement catholique décide du retour du roi.
2 jours plus tard, après 6 ans d'exil, Léopold III rentre au pays. Mais cet événement, dont beaucoup espéraient qu'il allait marquer la fin de cette affaire royale, ne fait malheureusement qu'annoncer son épisode le plus dramatique. La gauche socialiste et communiste appelle à la grève. Le 30 juillet, à Grasse-Berleur, la gendarmerie fait usage de ses armes contre des manifestants. 3 ouvriers sont tués. C'est la mort aussi de toute perspective de réconciliation.
Léopold III est forcé de négocier. Il accepte de se retirer si les parlementaires de gauche acceptent le roi Baudouin. La monarchie est sauvée, la question royale est terminée. Le roi prononce ses dernières paroles publiques le 16 juillet 1951.
Les dernières paroles que je prononce comme roi des Belges sont pour vous rappeler avec force, mes chers compatriotes, que l'avenir de la patrie dépend de votre solidarité nationale et pour vous demander de vous grouper avec ferveur autour de mon fils, le roi Baudouin.
Le roi Léopold III entre dans la discrétion presque complète. Il quitte la vie publique, s'impose le silence, les politiques et les médias s'imposent la réserve. Mais cette réserve, largement respectée jusqu'à sa mort, n'a pas effacé les divisions. 25 000 personnes lui rendent hommage au palais, mais à la chambre, des bancs restent vides lors de la commémoration qui lui est consacrée. Pas de socialistes, pas de communistes.
Il y avait des vides dans l'hémicycle, des vides chargés de signification. Pas un seul socialiste francophone, pas de communiste non plus. La délégation des socialistes flamands se réduisait à ceux qui exercent une fonction au bureau de la Chambre. Un seul FDF, un seul RW, un seul écolo à Galève et plusieurs absents sur les bancs libéraux. Présence importante par contre du CVP et du PSC, ainsi que de l'UDRT et de la Volksunie. La VU, on s'en souviendra, était absente lors de l'hommage des chambres au prince Charles en juin dernier.
Le 1er octobre, l'été qui était revenu par surprise est déjà reparti. En direct sur la chaîne publique, le cercueil noir de Léopold III, drapé des trois couleurs nationales, quitte le palais royal, porté par des militaires. Il est lentement posé sur un affût de canon tiré par un char, suivi par le gouvernement et la famille royale. Une haie de militaires le salue tout le long de la place des palais. Des centaines d'anciens combattants dressent leur drapeau sur son passage. Quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes sont présentes pour lui dire au revoir. Léopold III est inhumé à l'église de la crypte royale de Notre-Dame-de-la-Queue à Bruxelles, aux côtés de ses deux épouses.
Alors, Chantal Kestelot, vous êtes historienne. On vient d'entendre le JT prendre beaucoup de précautions à aller dans les détails du règne de Léopold III et de la question royale. À l'époque, en 1983, la mémoire, en réalité, elle est encore vive.
Elle est encore vive, mais en même temps, elle a été mise sous le boisseau, parce qu'effectivement, on en a très peu parlé. On a épinglé ici les télémémoires en 68, qui sont une première occasion. Il y avait un autre projet d'émission radiophonique qui s'appelait « Les dossiers de l'après-guerre », où il était convenu, bien sûr, qu'on allait parler de la question royale. On peut difficilement évoquer l'après-guerre en faisant l'impasse sur ce sujet qui est quand même une crise majeure de la société belge. Et puis, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la réalisation du montage de l'émission, les témoins sollicités se désistent. Et l'émission n'est pas enregistrée. Et pendant 6 mois, les dossiers d'après-guerre ne sont pas organisés. Et après, on passe à un autre sujet, à la construction européenne. Et donc, on fait effectivement l'impasse sur le sujet. Mais en même temps, on se rend bien compte que ça reste quelque chose de vivant. Et j'évoquais tout à l'heure...
De très sensible.
J'évoquais tout à l'heure la publication de Christian Ménil. Christian Ménil en a fait un film... Film qui a été, par contre, diffusé sur la télévision française, sur ce qu'on appelait alors Antenne 2, dans une émission qui s'appelait « Le dossier de l'écran » qui passait chaque semaine. Et donc, en janvier 1979, on passe ce film sur la question royale. Et il y a plus d'un millier de téléspectateurs belges qui vont appeler, qui vont réagir. Et donc, on se rend bien compte, là, qu'il y a une véritable demande qui existe. Et... Cette volonté de s'intéresser à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, parce que plus largement, je dirais que c'est toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui suscite un intérêt, elle correspond effectivement à un vide. Il faut savoir aussi qu'en Belgique, l'institution dans laquelle je travaille, le Centre d'études de recherche historique de la Seconde Guerre mondiale, n'a vu le jour qu'en 1969, si on compare aux pays voisins. Et probablement, la question royale n'y est pas non plus totalement étrangère. Ça fait partie... de ces choses dont on n'a pas voulu rouvrir les plaies.
Mais on sait que ça doit quand même encore un peu être réglé.
Mais on sait que ça doit être réglé. Il y a eu déjà en 1945 un projet de musée d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, projet qui n'a jamais abouti. Et là aussi, cette chape de la question royale pèse lourdement. Et donc, effectivement, on est dans un vide. Et ce vide, il suscite une demande. On a envie de savoir, on a envie... de pouvoir travailler sur cette histoire et la société a envie d'en savoir plus.
Et juste avant de continuer à avancer, cette chape, elle est là pourquoi ? Parce qu'on a peur de rouvrir les plaies, on a peur de fracturer la Belgique ?
Alors je crois qu'on a peur effectivement de cette division. Il ne faut pas oublier, la question royale a été une division profonde pendant 6 années. Elle a été suivie de la guerre scolaire qui a en partie reproduit, je dirais, les mêmes formes de division. La grève de l'hiver 60-61 est aussi une fracture. La fin de la colonisation est une autre fracture. Et donc, je dirais, en l'espace de 15 ans, la société belge a été profondément dans des phases de crise successives. Et donc, on se dit qu'effectivement, évoquer cette question peut, je dirais, remettre en quelque sorte, parce que souvent, ce sont les mêmes formes de rupture, les mêmes formes de division qui vont être actées. Et donc, on a envie, effectivement, de mettre une couche supplémentaire. dans une période, les années 70-80, où effectivement la division communautaire est extrêmement profonde. Donc on est dans le début de phase de transformation de cet État. Et donc rappeler cette division, mais ça peut aussi contribuer à, je dirais, radicaliser les points de vue sur d'autres sujets.
Alors justement, comment travailler pour les journalistes de l'époque sur ces questions qui, vous le dites, suscitent un certain appétit du public et qu'on produit très peu. J'ai posé la question à Jean-Jacques Jespers, qui présentait donc ce JT le jour du décès de Léopold III, et je lui ai demandé comment il l'avait préparé. On l'écoute.
On savait plus ou moins qu'il y avait un accord politique pour ne pas évoquer la période de la guerre, la période qui a débouché sur la question royale. Donc, on savait que c'était pas un sujet facile. On a été aidé par le fait que dans les années 70, il y a eu un livre qui est paru, qui s'appelait L'an 40, de José Gotovitch et Jules-Gérard Libois, qui a suscité beaucoup d'intérêt, qui a été très populaire, qui a été très, très bien diffusé, et qui a levé le voile pour la première fois sur cette période très compliquée de l'année 40, où la position politique du roi est apparue, où la position politique du gouvernement... On a vu qu'elle n'était pas très, très claire pendant tout un temps, etc. Donc on avait quand même, je dirais, une ouverture historique sur la question, même s'il n'y avait pas encore été beaucoup question dans les médias. Et on a pensé, par exemple, tout de suite à inviter un des deux auteurs de l'an 40, en l'occurrence Jules-Gérard Libois, pour évoquer cette période, parce que, on cherchait des historiens qui pouvaient jeter un regard un peu... extérieur, un peu critique et pas seulement, je dirais, dynastique oui. sur la question.
Pourquoi tant de précautions, j'ai envie de dire, pédagogiques ?
Parce que justement, il n'avait pas été beaucoup question de cela à cause de l'accord politique conclu en 1950 à l'issue de la question royale.
La RTBF avait fait peu d'émissions jusque-là là-dessus, c'est ça ? Vous, en tant que journaliste, vous dites, on n'a pas encore fait beaucoup.
On avait, je crois, fait des choses qui n'ont pas toujours été diffusées. D'ailleurs, Jacques Cognot, qui était responsable de la cellule Histoire à l'époque, avait engrangé un certain nombre de matériels qui n'ont pas toujours été diffusés. Et puis, c'était plus ou moins un tabou quand même. Une fois que Léopold III avait abdiqué et que l'unité nationale s'était faite autour du roi Baudouin, on considérait que c'était plutôt dangereux de revenir sur cette période. Et c'est seulement après la mort de Léopold III, qu'on a commencé à voir beaucoup plus d'émissions. Il y a les émissions de Moritz de Wilde sur le New Ordre, etc., qui ont été diffusées à la VRT et à la RTB. Et puis, il y a eu une sorte d'ouverture. Les gens ont commencé à parler, alors que jusque-là, ils refusaient. Ils acceptaient parfois de parler, puis se rétractaient parce qu'ils considéraient que c'était dangereux de soulever des enjeux qui avaient quand même, en 1950, fait 3 morts. C'était une période difficile de l'histoire de Belgique dont on ne voulait pas évoquer le souvenir.
Il a fallu du temps, mais on a expliqué pourquoi, pour qu'on l'explique en Belgique. Cela dit, dans beaucoup de pays, on voit qu'en France, sur Vichy, il a fallu du temps également pour que ces mémoires puissent s'exprimer, notamment dans les grands médias.
Il a fallu le chagrin et la pitié d'Ophuls. Avant ça, on n'était pas question. Oui, absolument. Et donc, c'est évident que la mémoire collective, elle est fragile, et que le fait que les médias, les grands médias, les médias audiovisuels, décident d'en parler, c'est presque un phénomène historique en soi.
Oui, c'est bien pour ça qu'on fait cette émission d'ailleurs, et que ça fait débat. Si on regarde en Flandre, Het Verhaal van Vlaanderen, une grande émission d'histoire, mais là qui reprend presque 2000 ans d'histoire, qui se sont déroulés sur le territoire de Flandre, fait encore débat aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Et on peut penser que ce qui a retenu beaucoup de nos collègues et ce qui a retenu beaucoup de médias d'en parler, c'est justement qu'on ne voulait pas susciter de débats trop durs dans l'opinion pendant au moins une vingtaine d'années. C'est surtout la question royale qui a déterminé cette décision, je crois, cette prudence extrême de ne pas parler de ces questions. Alors la mort de Léopold III, ça a été l'ouverture en quelque sorte d'un débat nouveau sur le rôle du roi. Je me souviens d'une phrase de Jacques Wilquet, le professeur d'histoire à l'ULB, dans le journal parlé de la RTBF, ce soir-là, le soir de la mort de Léopold III, disant « c'est la deuxième mort d'Albert Ier ». Alors, c'était une phrase extrêmement énigmatique. Personne n'a compris ce qu'il voulait dire. Mais en fait, on s'est rendu compte après qu'effectivement, d'abord, Léopold III avait une admiration profonde pour son père et il n'aspirait qu'à une chose, c'est d'être son successeur dans tout, dans toutes les dimensions. Et effectivement, pendant la Première Guerre mondiale, Albert Ier a fait des tentatives de signer une paix avec l'Allemagne. Il n'a cru vraiment à la victoire des Alliés que tout à la fin, en 1918. Et je pense que Léopold III s'est inspiré effectivement de cette attitude-là. Il voulait surtout éviter des morts, des massacres. La capitulation, c'était ça. Hein, c'était, il faut arrêter le sang. Et ça a été très populaire à cette époque-là. Les gens ont tout à fait approuvé cette attitude-là. Le gouvernement, en partant en France, ne s'est pas rendu populaire du tout auprès de la population belge.
Voilà, alors le récit de Jean-Jacques, j'espère, c'est intéressant parce qu'il confirme en fait les éléments que vous aviez dit sur ce devoir de réserve, même un peu chape de plomb parfois, hein, qui existe dans les médias. Mais alors par contre, les historiens, et ça vous l'avez dit aussi, commencent à s'emparer du sujet dès le début des années 70. On a cité l'an 40 de Jules Gérard Libois et de José Gotovitch. Est-ce que les travaux des historiens, et peut-être même jusqu'à maintenant, puisqu'on parle ici en 2023, sont parvenus à départager ou à réconcilier, je ne sais pas comment je dois le dire, léopoldistes et anti-léopoldistes. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait suffisamment de choses pour savoir si, en gros, le roi a fait son devoir constitutionnel, comme le disaient les léopoldistes, et a essayé de sauver la patrie, ou est-ce qu'il a tenté la négociation avec Hitler dans un dessein un petit peu d'ordre nouveau, ou en tout cas de pouvoir autoritaire, ce que lui reprochait en particulier les socialistes et les communistes à la sortie de la guerre.
Alors je crois qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup de recherches a été faite, à commencer par l'an 40 en 71. Et l'an 40, c'est aussi un livre important. C'est un livre rigoureux, scientifique, mais c'est aussi un livre qui va avoir un écho dans les médias comme peu de livres d'histoire l'ont eu jusqu'alors. Mmh. Donc là aussi, il y a une espèce de révolution qui tourne autour de l'an 40. Il y a aussi l'ouvrage de Jean Stengers en 1980 sur les deux politiques de 1940 qui là aussi permet d'approfondir les choses. Donc je dirais aujourd'hui, grosso modo, il n'y a plus de secrets. Léopold III lui-même, à titre posthume, a pris la plume, ce qui est quand même très, très singulier.
Et ça a relancé le débat, d'ailleurs.
Ça a relancé le débat. Ouais. Ça a été un succès de librairie. Hein. On estime qu'il y a eu 100 000 exemplaires vendus, dont 70 000 en français. Donc, c'est un vrai succès de librairie. Donc, je crois qu'effectivement, les arguments de part et d'autre sont connus. Mais je crois qu'il y a des points de vue qui restent figés et que des léopoldistes, il y en a toujours, et des anti-léopoldistes aussi. Ce qui est intéressant de voir, c'est au fond l'évolution de la société francophone. Parce que quand on regarde les résultats de la consultation populaire de mars 50, c'est effectivement en Wallonie 58% de non, à Bruxelles 52% de non. Aujourd'hui, l'attachement à la monarchie semble parfois plus fort dans ce monde francophone. Le succès des mémoires de Léopold III est vraiment patent dans le monde francophone. Donc, il y a une interpellation ici. Pourquoi ce radicalisme de 50 et pourquoi aujourd'hui peut-être une attitude plus compréhensive, plus grande mansuétude? Alors, je dirais que derrière aussi cette question, non seulement il y a effectivement tout l'examen de l'attitude de Léopold III, mais il y a aussi tout l'enjeu, l'attitude du gouvernement belge de 1940, dont on sait effectivement, après la capitulation française, il entre dans une grande phase de désarroi, il ne va rejoindre Londres que 3 mois plus tard. Donc là aussi,
il va hésiter sur la stratégie.
Donc, je dirais, 1940 recèle de part et d'autre des faiblesses, à la fois dans le comportement du roi, mais aussi dans celui du gouvernement. Donc, pour un certain nombre d'hommes politiques, et je pense en particulier à quelqu'un comme Paul-Henri Spaak, qui continue quand même une carrière politique, je dirais, on n'a pas non plus envie nécessairement de déterrer un certain nombre de cadavres, de réexaminer cette attitude. Mais grosso modo, en termes de recherche, les documents sont accessibles. Il y a eu en 2001 une grande synthèse avec toute une équipe d'historiens sur Léopold III. Et surtout, et ça c'est intéressant, je dirais la synthèse probablement la plus complète, celle qui a vraiment fouillé le dossier de fond en comble, c'est une synthèse de Vélars et Van Goutem, Léopold III qui n'est jamais paru en français. Et ça, c'est intéressant.
Ah bon. Pourtant, elle pourrait avoir du succès, puisque ses mémoires ont eu beaucoup de succès.
Mais bon, c'est une brique qui fait 800-900 pages, donc le monde éditorial est un peu frileux. Mais là, véritablement, c'est un livre où, je dirais, on a vraiment remué les moindres détails de tous les éléments du comportement de Léopold III pendant la Seconde Guerre mondiale.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand Haine.
Et donc après la mort du roi Léopold III en septembre 1983, la réserve sur laquelle on s'est déjà beaucoup exprimé dans les principaux acteurs politiques et médiatiques saute un petit peu et on retrouve, quand on regarde les archives, c'était assez clair, beaucoup plus d'émissions produites sur cette période, pas que sur Léopold III d'ailleurs, mais sur la période de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier celle-ci qui va vraiment bousculer les lignes.
Chers téléspectateurs, bonsoir. Il y a 7 ans, nous avons accepté la mission qui consistait à dépeindre la collaboration dans notre pays au cours de la Seconde Guerre mondiale. À cette occasion, nous avons constaté que la Belgique est, au cas où vous l'ignoriez, unique à plusieurs égards. Tout d'abord, il est frappant de voir que dans notre pays, à l'encontre de ce qui se passe ailleurs, si peu d'ouvrages ont été publiés concernant la Seconde Guerre mondiale et surtout la collaboration. Généralement, on considère qu'en traitant de ce sujet, on se compromet de toute manière et qu'il vaut mieux par conséquent ne pas en parler. Mais tout le monde le sait, un journaliste peut être compromis surtout lorsque pendant plusieurs années, il a dû faire le travail des autres. Cependant, il ne fait pas de doute que ce manque de publication est aussi dû au fait que dans notre pays, une loi parue au Moniteur du 24 juin 1955 a décidé que les archives ne peuvent être consultées qu'au bout de 100 ans. Pendant tout un siècle, la consultation des archives est dès lors vouée au bon ou au mauvais vouloir des institutions qui sont seules à décider si elles autorisent l'accès à leurs archives. Même la génération qui a connu la guerre et qui disparaît petit à petit ne peut apparemment pas savoir ce qui s'est passé à son insu. À ce propos, surgit immédiatement la question de savoir pourquoi, à l'inverse de ce qui se passe dans d'autres pays, il faut dissimuler si longtemps ce qui a si profondément bouleversé notre société au moment de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi notre public, et notre jeunesse surtout, doivent-ils être tenus dans l'ignorance de ce qui s'est déroulé dans les coulisses de la collaboration ?
C'est donc le premier épisode d'Ordre Nouveau de Maurice de Wilde. C'était le 29 mars 1984 et le titre de cette émission était « Les petits dictateurs ».
Oui, c'est un peu une légende, hein, cette émission de Maurice de Wilde. Elle a eu un impact important sur le public à l'époque. Alors, tant en Flandre, où elle a été diffusée d'ailleurs un petit peu avant la mort de Léopold III, puisque c'était en 82, que côté francophone. Peut-être même encore plus, puisqu'on organisait des débats après ces émissions, tellement elle faisait surgir une série de questions. Alors on a entendu Maurice de Wilde, avec un ton un peu provoquant, comme ça, dire « j'ai dû faire le travail des autres », entre guillemets des historiens qui n'ont pas fait leur travail. Et surtout, lui, il tablait beaucoup sur cette chape de plomb. On a refusé de parler, on a caché même les archives, disait-il. Alors il exagère, Maurice de Wilde ?
Alors, il y a effectivement cette législation sur les archives, elle est une réalité. Et quand le Centre de la Seconde Guerre mondiale est créé, on va commencer à travailler avec des sources alternatives. On est quand même 25 ans après les faits, donc on va interviewer toute une série de protagonistes, matériaux qui va d'ailleurs aussi être utilisé par Maurice de Wilde. Donc là, je dirais qu'il fait un petit peu dans la provocation, parce que effectivement, au moment où la première série est diffusée, il y a quand même déjà pas mal de travaux qui sont accessibles. On a déjà parlé de l'an 40. Ah oui. Il y a Hitler et notre political lot van België qui, du côté néerlandophone d'Albert de Jong, a eu un retentissement énorme qui a aussi charrié énormément de sources. Donc, je dirais, c'est un peu une espèce de procès peut-être un peu facile qu'il fait.
C'est une mise en scène de soi.
C'est une mise en scène. Mais effectivement, cette émission est une révolution. Et comme vous le soulignez, du côté flamand, elle est diffusée en 1982, à une époque où Léopold III est encore vivant. Et Léopold III va lui-même réagir à cette émission. Donc là aussi, il sort de son devoir de réserve pour dire « oui, je me suis toujours imposé le silence » et voilà que d'autres se mettent à parler. Donc il y a tout un, je dirais, une espèce de dialogue qui va se faire. Il va écrire à Wilfried Martens, qui est le Premier ministre de l'époque. Cette lettre va circuler, va être publiée dans la presse. Et en fait, ça va un petit peu servir, pour utiliser un mot d'aujourd'hui, de teaser pour la diffusion sur les ondes francophones. Il y a deux teasers sur la diffusion sur les ondes francophones. C'est d'une part les réactions de Léopold III et aussi de toute une série de mouvements léopoldistes et le fait que Léon de Grelle passe pour la première fois à l'antenne. Et là aussi, je dirais, la RTB a été relativement frileuse puisqu'il y a un film qui avait été préparé et qui n'a jamais été diffusé.
Qu'on a refusé de diffuser.
Ouais. Et donc, c'est via cette émission de la VRT, là aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On est quand même dans un univers audiovisuel où les choses sont relativement séparées. Il est très rare que des émissions passent d'une chaîne à l'autre. Denis Beord va être traduit et adapté pour un public francophone. On entend Maurice de Wilde qui s'exprime en français. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va être suivi de débats d'historiens. Et donc là, ça, à la fois, ça illustre la volonté de s'intéresser à l'histoire, mais ça illustre peut-être aussi une certaine frilosité. On a un peu peur de laisser les ondes, de laisser Léon de Grelle s'exprimer, et on veut recadrer le débat. Et donc, on fait appel à des historiens qui, à ce moment-là, ont déjà mené pas mal de recherches. Et chaque épisode, chaque diffusion est suivi d'un débat d'historiens où on va recadrer les perspectives.
Ouais, cette frilosité là, de la télévision francophone, donc dans les années 70, vous l'avez dit aussi, Jacques Cognot, qui est un journaliste qui travaille sur ces questions historiques, avait préparé des choses. Et puis, les acteurs se sont en fait rétractés par ce devoir de réserve. Le projet n'a pas pu se faire. Et donc, c'est du côté flamand, avec le ton de Maurice de Wilde, que certains considère un peu comme inquisiteur, parfois un petit peu instructeur, je ne sais pas comment on doit le dire, que nous vient cette histoire de la collaboration. C'est quand même une occasion ratée, non, pour les médias francophones?
Ah, c'est clairement une occasion ratée, parce qu'il va falloir attendre encore, je dirais, une dizaine d'années pour que la RTB, à l'occasion des commémorations du 50e anniversaire, se lance dans la série Jour de guerre, 1994-95.
Avec Jean-Jacques Jespers.
Avec Jean-Jacques Jespers, justement.
Très bonne série.
Je dirais, le premier focus sur lequel la RTB va se lancer, s'agissant de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les émissions de Rivet sur la bataille des Ardennes. Et là, c'est 84-85. Mais je dirais, il n'y a pas un tabou politique derrière cette bataille des Ardennes. Et donc, effectivement, c'est une occasion ratée parce qu'il y aurait eu là, je dirais, si on avait continué sur cette tradition, hein, parce que quand on pense, par exemple, pour les commémorations du 50e anniversaire de la Première Guerre mondiale, le journal de la Grande Guerre, il y avait là une tradition du documentaire historique qui a été initié à la RTB et qui a été en quelque sorte cassé dans son élan et qui n'a pas pu poursuivre sur l'entre-deux-guerres et sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça nous revient, je dirais, de la VRT.
Ouais.
Alors dans cette émission, on aime toujours bien faire résonner le passé avec le présent, essayer de voir comment les histoires d'avant résonnent aujourd'hui. Et en nous entendant discuter, je me posais la question, qu'est-ce qui aujourd'hui est un sujet compliqué sur lequel les historiens travaillent, peut-être en avance sur les journalistes? Est-ce que, par exemple, vous diriez qu'on assiste au même mouvement en ce qui concerne la période de colonisation, de décolonisation?
Oui, absolument. Je crois que c'est un sujet c'est un sujet très difficile. C'est un sujet sur lequel les historiens ont énormément travaillé. Il y a des synthèses qui ont été publiées et ça mériterait une véritable recherche historique, une véritable production télévisuelle, je dirais. Et là, encore une fois, malheureusement, l'exemple nous vient un peu de la VRT avec Kinder van de Collaboratie, qui là aussi, je dirais même pour un public francophone, parce que pas mal de témoignages sont en français, est extrêmement intéressant. Mais il y a toute une matière qui pourrait être mise en évidence, la fin de la colonisation, mais aussi, je dirais, toute la période 1908-1960, sur laquelle on a des documents, il y a des documents d'archives, mais où il n'y a jamais eu une de véritable série historique et ça le mériterait largement.
Merci Chantal Questelot d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes responsable de l'histoire publique au Centre Guerre et Société des Archives de l'État.
Merci beaucoup.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue.
Avec l'aide des archives de la SONUMA et à la réalisation, Jonathan Remy.